Vous êtes sur RTL.
RTL Matin, Yves Calvi.
7h44, excellente journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Jordan Bardella, tête de liste du Rassemblement National aux prochaines élections européennes.
Bonjour Jordan Bardella.
Bonjour Elisabeth Martichoux.
Merci d'être dans ce studio d'RTL ce matin. En meeting récemment, vous avez lancé « On va faire pleurer Castaner ». Ça veut dire quoi? Ça vous fait rire.
Oui, j'ai dit en meeting, lancement de notre campagne, que le 26 mai, je voulais voir Castaner pleurer toutes les larmes de son corps et je voulais voir ce gouvernement qui manifeste un mépris, une arrogance absolument incroyable à l'égard des Français depuis son élection, voir effectivement une autre offre politique et voir les Français sanctionner sa politique dans les urnes le 26 mai, parce que, je l'ai dit, je pense qu'au-delà d'être une élection européenne et d'être un scrutin européen, c'est la première élection, la première échéance électorale depuis l'arrivée d'En Marche à la tête du pays. Et les Français qui aujourd'hui expriment un mécontentement à l'égard de la politique de Macron doivent pouvoir s'exprimer contre cette politique dans les urnes le 26 mai. Et qu'en fait, s'abstenir, c'est permettre à Macron d'arriver en tête.
La campagne des européennes sera violente, on s'y attend. C'est Stéphane Séjourné, le directeur de la campagne à l'REM, qui l'a dit samedi. Est-ce que vous vous êtes senti visé ?
Dans la mesure où Mme Loiseau a indiqué que son principal ennemi, son principal adversaire, c'était le Rassemblement National, oui, on peut se sentir visé. Moi, je préférais que Mme Loiseau, qui représente la majorité, nous explique que son principal adversaire, c'est le chômage, que c'est le problème du pouvoir d'achat,
que
c'est le
problème. Votre principal adversaire, c'était Emmanuel Macron.
Oui, sauf que nous sommes un parti d'opposition, et par conséquent, nous faisons notre travail, qui est celui de porter une critique sur la politique du gouvernement légitime, et en même temps d'offrir un projet alternatif aux Français. Mais moi, si vous voulez, je note que Madame Loiseau est entrée en campagne et qu'elle se comporte exactement comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire avec un objectif, c'est battre le Rassemblement National. Voilà, c'est permettre au seul parti d'opposition de faire le moins de voix possible. On a peut-être trouvé là l'héritière de Manuel Valls. Eh bien, moi, j'invite les Français à lui répondre dans les urnes.
Qu'elle ne parle pas d'Europe, pas suffisamment d'Europe. Parce que c'est un reproche aussi qu'on pourrait faire.
Écoutez, on a découvert que Mme Loiseau était ministre des Affaires européennes. Quel est son bilan? C'est quoi son bilan sur les 500 000 travailleurs détachés? C'est quoi son bilan sur les quotas de migrants qui sont votés par le Parlement européen et qui sont imposés dans les villes et dans les villages français? C'est quoi son bilan sur les traités de libre-échange qui mettent, par exemple, dans le cadre du CETA, nos producteurs bovins en concurrence avec des producteurs bovins canadiens qui sont payés 30 à 40% de moins?
C'est quoi votre bilan à Bruxelles avec une vingtaine d'élus depuis 2014? Pourquoi? Une question, une curiosité.
Oui.
Par exemple, pourquoi en octobre 2016, le Front National a voté à Bruxelles contre la réindustrialisation en Europe après la fermeture de l'usine Alstom?
Nous n'avons pas voté contre la réindustrialisation.
Si. Si vous voulez,
le problème, c'est qu'au Parlement européen, vous avez un certain nombre de textes. Ça a été le cas notamment sur la directive détachement des travailleurs qui améliore le dispositif. Mais nous, si nous sommes fondamentalement opposés au dispositif, nous n'allons pas soutenir une amélioration du dispositif. Donc nous avons toujours été cohérents depuis 2014. Je vous rappelle quand même que j'entendais l'autre jour un responsable de la République en marche,
juste
vous expliquer que nous étions les
Bruxelles,
sortants.
Pour rester sur cette résolution, parce que sinon on ne comprend pas effectivement ce que vous reprochez à l'Europe. Vous prétendez vous battre, vous, pour défendre les intérêts français contre Bruxelles, mais quand vous votez contre cette résolution, d'une certaine façon, vous compromettez l'aide européenne à l'emploi.
Absolument pas. Et je vais vous dire, nous sommes opposés à tout, sans exception, les traités de libre-échange. Voilà, qui aujourd'hui...
Tous les traités de libre-échange. Pour la réindustrialisation, c'était du libre-échange.
Sans exception. Nous avons voté contre tous les traités de libre-échange qui ont pour seul objectif d'abaisser les barrières douanières qui sont censées protéger notre économie et qui mettent, en l'occurrence, nos industries, nos emplois en concurrence avec le monde entier. Maintenant, je vais vous répondre. L'autre jour, j'entendais un responsable.
On ne comprend pas ce que vous dites.
Laissez-moi parler plus de 30 secondes et vous allez comprendre.
Répondez aux questions.
Nous sommes arrivés en tête lors des élections de 2014. Nous nous sommes opposés à l'ensemble des traités de libre-échange. Maintenant, c'est aux responsables des Républicains qu'il faut demander des comptes, parce que je vous rappelle que ce qui gouverne aujourd'hui en Europe, c'est le PPE, c'est le parti de la droite européenne auquel participent les Républicains. Et c'est eux qui sont aux manettes de la Commission européenne.
Après la fermeture, la menace de fermeture,
nous avons voté
PPE, libre-échange.
Nous, Oui, en l'occurrence, parce que la réindustrialisation, la désindustrialisation vient de l'abaissement des barrières douanières. Voilà. Donc, je vous dis que nous avons voté contre tous les traités de libre-échange et que je ne vais pas, pour vous faire plaisir, vous dire que nous n'avons pas voté un texte alors que nous y sommes résolument opposés.
Bon, je comprenne qui pourra. Je reprends un autre bilan, puisque vous preniez vous-même cette orientation de voir le bilan. Vous avez refusé en décembre 2015, le groupe Front National, de voter pour la lutte contre l'évasion fiscale.
C'est faux.
Non.
C'est faux.
Ah ben,
voilà.
Attendez,
c'est faux.
Reprenons les textes.
C'est faux.
Si
non, mais vous êtes en train de faire la publicité des textes du Parlement européen qui n'améliorent en rien que ce soit la lutte contre l'évasion fiscale.
C'était pour améliorer la transparence sur les politiques d'impôts sur les sociétés
Madame
en Europe.
Madame Martichoux, ce que vous dites est faux. Non, et d'ailleurs, l'impossibilité, l'incapacité.
Et d'ailleurs, non, mais, attendez, est-ce que c'est faux que vous avez voté contre
Madame Martichoux.
Est-ce que vous avez voté contre ce texte?
Est-ce que vous allez me laisser parler ou est-ce que je vais devoir m'en aller de ce plateau? Parce que là, très objectivement, ça commence à devenir pénible. Je ne suis pas venu devant un tribunal médiatique ce matin. Donc, vous me laissez répondre à vos questions.
Non,
absolument pas. Donc, soit vous me laissez répondre à vos questions, soit je m'en vais. Voilà. Donc, vous me posez un certain nombre de questions. Je vous dis que c'est absolument faux et que nous ne votons pas des textes au Parlement européen qui sont dérisoires. Voilà. Nous avons toujours été cohérents. Nous sommes opposés au traité de libre-échange s'agissant de la désindustrialisation. Maintenant, sur la taxe, si vous voulez, c'est très clair sur le problème de fraude fiscale.
Non, c'est pas clair.
Mais si, c'est très clair.
C'est pas clair. Vous venez de me dire, pardon Jordan, mais vous venez de me dire que c'est vrai, vous votez contre, mais pour des raisons qui sont conformes à vos convictions européennes.
Exactement.
Et ben voilà.
Exactement.
Et ben donc
exactement.
J'ai dit la vérité.
Maintenant, sur la question de la fraude.
Voilà,
mais Madame Martichoux, je vois que vous faites bien l'avocate du Parlement européen des textes qui sont votés. En l'occurrence, ces textes n'améliorent en rien la vie des Français. Aujourd'hui, une grande majorité des décisions qui sont prises à Bruxelles ont des conséquences directes sur la vie des Français. Et si vous voulez des comptes sur ce qui est voté au Parlement européen, que ce soit les quotas de migrants, que ce soit les traités de libre-échange, eh bien, il faut demander des comptes à la droite européenne, puisque c'est eux qui sont sortants, à commencer par les Républicains. Maintenant, sur la fraude fiscale, on a vu, notamment dans le cadre de la taxation des GAFA, que l'Europe était absolument dans l'incapacité de se mettre d'accord. Et nous, on soutient l'instauration d'une taxe nationale, parce qu'aujourd'hui, il est totalement aberrant que des grandes entreprises fassent de l'optimisation fiscale et qu'une entreprise comme Google, par exemple, paie 9% d'impôts, quand un patron de TPE-PME n'en paie que 33%.
Ce n'est pas un tribunal médiatique, Jordan Bardella.
Oui, parce qu'on a un peu l'impression de venir au tribunal médiatique.
Que de vous mettre face au bilan du groupe européen, des députés européens, Front National.
Mais vous avez le droit de ne pas partager...
ça n'est pas la question.
Vous avez le droit de ne pas partager nos avis. Vous avez le droit de défendre les textes du Parlement européen.
Ça n'est pas la question.
En l'occurrence, les textes que vous citez...
Vous êtes désagréable, ça n'est pas la question.
Non, je suis parfaitement agréable.
Jordan Bardella,
c'est vous qui êtes désagréable, Madame Martichoux. Mais en l'occurrence, sur les textes que vous citez, les textes n'améliorent en rien la lutte contre l'évasion fiscale.
Et c'est pour ça.
Dans un pays où les frontières sont dérisoires entre des pays comme le Luxembourg ou l'Irlande qui font, eux, de l'optimisation fiscale et contre lesquels l'Union européenne est aujourd'hui totalement impuissante. Et c'est pour ça que nous proposons de changer de modèle.
Vous espérez gagner. Par parenthèse, François Hollande a déclaré dans une interview avant-hier qu'il affirmait que le Front National arriverait au pouvoir peut-être dès 2022. Merci François Hollande de ce petit coup de pouce.
Il fait un constat, c'est-à-dire que ça fait 30 ans que dans notre pays, les responsables politiques qui se sont succédés, dont François Hollande d'ailleurs, on rappelle que Macron a participé de ce gouvernement et qu'il est aux manettes depuis bien longtemps en fait, ont été incapables de répondre aujourd'hui aux attentes des Français. Et c'est vrai que le courant d'idées qu'on incarne en France porte des idées à la fois du présent et d'avenir, parce que les idées qu'on défend en France sont au pouvoir dans un certain nombre de pays en Europe. Moi je reviens, j'étais il y a quelques jours en Italie auprès de nos alliés de la Ligue, où Salvini a réussi, par exemple, à faire baisser de 85% le nombre de migrants en Europe, où il a réussi à redonner confiance au peuple italien dans la politique, en réalité, parce qu'aujourd'hui, vous regardez les sondages de la Ligue, près de 35% des voix, et je pense que Macron aimerait en avoir autant. C'est vrai en Autriche, où nos alliés gouvernent, et puis, pardon, mais toutes les puissances du monde font du patriotisme économique, font du localisme, font du protectionnisme.
Merci à la vision
Je pense que c'est un aveu de vérité. D'ailleurs, Macron l'avait dit, si j'échoue, le Rassemblement National arrivera au pouvoir.
Donc,
je pense que nous allons
arriver
au pouvoir,
et partout dans les mairies,
et partout dans les mairies où nous faisons où nous sommes au pouvoir, nous faisons nos preuves, les impôts n'augmentent pas, nous rétablissons la sécurité et il y fait bon vivre. Je pense à Fréjus.
Vous n'avez jamais été aussi haut, c'est vrai, dans les élections que sous François Hollande, et vous avez fait 25% en 2014 européennes. Vous espérez atteindre ce score
Écoutez, on espère faire le score le plus haut possible.
Vous êtes à 22 en ce moment dans les sondages.
Oui, mais moi,
je suis assez prudent.
Je suis assez prudent vis-à-vis des sondages. Nous, on veut faire évidemment le score le plus haut possible. Nous voulons gagner ces élections européennes. Et j'appelle tous les mécontents de la politique de Macron à venir se porter sur notre liste, qui est en l'occurrence la seule capable de battre la République en marche.
Remaniement, annoncé dimanche soir, à peine nommé. Vous avez tweeté sur Sibeth Ndiaye, promue au poste de porte-parole du gouvernement en remplacement de Benjamin Griveaux, sur Twitter, menteuse professionnelle. Un peu à l'emporte-pièce.
Non, elle l'assume.
Elle l'a démenti.
En tant que porte-parole du gouvernement, quelqu'un qui déclarait assumer le fait de mentir pour protéger Emmanuel Macron.
Elle l'a démenti.
Donc voilà, c'est très clair. Peut-être que la loi anti-fake news, d'ailleurs, que veut nous imposer le gouvernement, s'appliquera à Mme Ndiaye, qui avait parlé lors du décès de Mme Veil, qui avait dit « Yes, la meuf est dead ». Bon, je pense que c'est pas vrai. Elle l'a reconnu elle-même.
Tout ça, elle a démenti. Elle avoue pouvoir mentir. Elle a lancé hier.
J'espère
que vous me jugerez sur les propos que je tiens et non pas sur ceux que l'on me prête.
Le fond, c'est pas ça. Le fond de l'affaire, c'est qu'aujourd'hui, Macron est totalement seul et isolé. Quand on en vient à nommer des membres de son cabinet en tant que ministre ou porte-parole du gouvernement, c'est bien qu'aujourd'hui, on est seul. On sort du grand débat. Les Français, ils attendent aujourd'hui des réponses très claires sur la baisse des impôts, sur des actes très clairs sur l'emploi, sur la sécurité, sur l'immigration. Et force est de constater qu'il a un peu de mal à se sortir de ce grand débat.
Merci Jordan
Mardella
d'avoir été ce matin sur RTL.
Et l'intégralité de cet entretien, comme tous les jours, est à retrouver sur le site rtl.fr. Merci à tous les deux. Dans un instant.